Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur les territoires. La municipalité de Yellowknife a adopté récemment son plan de développement communautaire pour les 20 prochaines années. J'en ai discuté avec la mairesse Rebecca Alty. Tous les renseignements que les entreprises d'extraction pétrolière et gazière sont tenues par la loi de divulguer au GTNO seront désormais rendus publics. J'ai obtenu le point de vue du député et militant environnemental Kevin O'Reilly. Depuis peu de temps, de plus en plus de travailleurs ténois envisageraient de changer de carrière ou du moins de s'adapter à de nouvelles réalités du marché du travail. C'est ce qu'observe depuis le mois de juin le gestionnaire du carrefour carrière des TNO, Gordon Ross. J'en ai discuté avec lui. La santé publique des TNO enregistre un nombre croissant d'infractions aux arrêtés de santé publique en ce qui a trait aux règles d'isolement. Les autorités ont manifesté cette semaine leurs inquiétudes. Mon collègue Baptiste Foisy nous donne les détails. Le Nunavut vient d'amender ses règles d'isolement au retour sur le territoire. Les députés de l'Assemblée législative peuvent désormais obtenir la permission de s'isoler chez eux, dans leur collectivité. Une mise en garde cette semaine pour les personnes qui fréquentent les plages de Hay River. Des baigneurs ont contracté la dermatite du nageur. Finalement, plusieurs jeunes des territoires du Nord-Ouest qui s'identifient comme étant LGBTQ2S+, auront droit cet été à un séjour d'une semaine au tout premier Community Camp, un camp de jour qui leur est dédié. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade nous en parle. Le conseil municipal de Yellowknife a approuvé à l'unanimité le nouveau plan de développement communautaire de la municipalité. On le décrit comme un cadre réglementaire afin de déterminer la façon dont seront utilisés les terrains de la ville, et ce, pour les 20 prochaines années. Il reste une étape pour compléter ce plan. Des consultations publiques doivent avoir lieu prochainement afin de produire de nouveaux règlements de zonage à travers Yellowknife. J'en ai discuté cette semaine avec la mairesse Rebecca Alty à l'Hôtel de Ville. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est un plan qui s'échelonne sur 20 ans. Là, comment est-ce que vous décririez les bases qu'on utilise aujourd'hui pour développer cette collectivité-là?
Oui, donc en 2018, on a commencé à parler avec les résidents ici à Yellowknife parce que le plan, c'est à propos de où est-ce qu'on va développer la prochaine place pour les maisons, où est-ce que c'est la prochaine place pour les business, où est-ce qu'on va chercher de les roches comme une quarry. Donc, c'est toutes ces questions, où est-ce qu'on va développer. Et maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on doit regarder notre zoning bylaw et puis être certain que le zoning bylaw et le nouveau plan de développement communautaire sont la même. Donc, ça, il n'y a pas de conflit entre les deux.
Donc, si je comprends bien, on est encore à jeter les bases. Là. On veut créer ces bases-là. La prochaine étape étant la redéfinition des zoning bylaws, c'est-à-dire des règlements de zonage.
Oui, exactement. Donc, le plan de développement communautaire, c'est vraiment en détail haut. Une de les grandes questions quand on parlait avec les gens, c'était à propos de Cam Lake et les chiens. Donc, les chiens et les maisons, là, combien de mètres entre les maisons et les dog kennels est-ce qu'ils devraient être? Et ça, c'est une question qu'on va parler beaucoup dans les règlements de zoning.
Si on va un peu plus court terme, disons dans un horizon de 5 ans environ, est-ce qu'on on sait d'emblée que ce serait quoi les premiers objectifs qu'on chercherait à atteindre?
Vraiment, c'est d'avoir des terrain pour les maisons. Donc, quand les gens viennent à la ville et ils veulent construire une maison, ils veulent savoir où est-ce qu'ils devraient.
On veut vraiment favoriser finalement l'accès à la propriété.
Oui, exactement. Ça, c'est vraiment le plan parce que je pense que maintenant, on a des terrains pour les maisons, mais les choses qu'on entend, qu'il n'y a pas d'espace pour les dog kennels, donc le dog mushing, et où ils veulent vivre avec leurs chiens. Il y a aussi beaucoup de questions à propos de l'agriculture, les gens qui veulent avoir un vrai commerce là, et le tourisme. Il y avait des gens qui ont venu à la ville et voulaient avoir de l'espace pour construire des choses où les gens peuvent regarder les Northern Lights à l'intérieur. Donc, il y a quelques façons à utiliser le terrain que maintenant à Yellowknife, on n'a pas de terrain pour.
C'était un peu ma prochaine question. Là, on est dans le... On veut favoriser le mode de vie à Yellowknife. Quel défi en ce moment s'impose? Je pense à... j'entendais des témoignages officieusement, par exemple, de jeunes qui sont pas certains de vouloir rester. C'est quoi les défis en ce moment? Qu'est-ce qui manque à Yellowknife?
COVID, ça a changé beaucoup. Quand j'ai parlé en décembre, les gens voulaient acheter du terrain pour faire de l'espace pour agrandir le tourisme. Et puis maintenant, il y a comme une petite pause. Mais on veut toujours entendre ce que les résidents veulent, s'ils croient qu'il n'y a pas de terrain pour faire quelque chose, viens à la ville et on peut parler et voir où est-ce que le développement peut arriver. Mais je pense qu'aussi l'emploi, quand les mines de diamants se ferment dans les quelques prochaines années, ça c'est un grand défi, mais on veut aussi regarder les autres, peut-être l'emploi, comme l'agriculture et le tourisme, et même avec le cold weather testing, comme il y avait Bell Helicopters qui ont venu l'année passée, ça fait longtemps maintenant, et ils testent leur nouveau hélicoptère pour être certain qu'il peut fonctionner quand c'est froid. Donc, on a beaucoup de petites chances et c'est d'aller attraper ces opportunités.
Le déclin de l'industrie minière, finalement, le défi se pose de garder les gens et d'attirer des gens à Yellowknife.
Oui, et il y a des autres mines qui viennent comme Avalon avec les rare earth metals et il y a Terex qui regarde pour l'or autour de Yellowknife, mais encore les mines de diamants ont beaucoup d'emplois, donc ces autres peut-être n'ont pas assez d'être le même quand les mines ferment, mais c'est vraiment d'essayer de prendre les opportunités de beaucoup de différents secteurs.
On parlait un peu du gouvernement territorial. À quel point est-ce que la municipalité peut s'arrimer avec avec le gouvernement et avec le GTNO, finalement? À quel point vous sentez que vous avez un appui ou peut-être que le GTNO représente un défi au développement communautaire de Yellowknife?
C'est un peu d'un défi, mais on essaie de travailler ensemble. Je pense que le plus grand défi, c'est beaucoup de la terre dans la ville de Yellowknife. C'est actuellement la terre de le gouvernement territorial. Donc, une chose qu'on veut travailler avec eux, c'est de remettre cette terre à la ville de Yellowknife. Donc, on peut vendre à les gens pour leur business ou ils peuvent fabriquer les maisons, parce que si on va dans cet endroit, les demander à transférer le terrain à nous et puis on peut transférer à les autres gens, ça prend beaucoup de temps. Et si tu veux faire un business, tu ne veux pas attendre 2-3 années pour les différents niveaux de gouvernement de travailler sur ça. Donc, ça, c'est un des défis, mais quelque chose qu'on travaille ensemble maintenant.
Comment est-ce que ça avance, ce dossier-là?
Lentement, mais on va continuer à pousser. Bien, peut-être c'est lentement, mais c'est vite, parce que quand on parlait avec l'Assemblée le 18e, je pense que nous sommes dans le 19e, il ne parlait pas à propos de ce sujet, mais c'est dans le mandat de ce gouvernement. Donc, on avance un peu, mais on sait que ça va être comme quelques années depuis qu'on peut voir toute la fin.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi.
C'était Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife. Mmh. Les entreprises d'extraction pétrolière et gazière sont tenues par la loi de divulguer plusieurs informations au ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement ou encore à l'organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières. Eh bien, c'est maintenant officiel depuis la fin du mois de juillet. La majeure partie de ces renseignements seront désormais rendus publics. Cette règle est incluse dans deux nouvelles lois régissant les activités pétrolières et gazières au TNO. Elles ont été adoptées en août 2019 au terme d'un processus de consultation publique. Elles sont officiellement entrées en vigueur cet été. Comme l'indique la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Katrina Nokolby, par communiqué de presse, ces modifications ciblées constituent une nouvelle étape d'un processus de longue haleine qui vise à moderniser les lois qui régissent le pétrole et le gaz au TNO. En 2014, le GTNO prenait la responsabilité des lois qui régissent les activités pétrolières et gazières du territoire, des lois qui étaient jusqu'alors de juridiction fédérale. Il appartient aux élus du territoire d'en redéfinir ainsi les paramètres. Nous avons maintenant besoin de lois modifiées qui répondent mieux aux besoins et aux priorités actuelles de notre territoire, a ajouté la ministre dans son communiqué. On mettait également en place, au moment de ce transfert de responsabilité de 2014, l'organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières. Eh bien, on apprenait ce jeudi 6 août qu'une nouvelle responsable a été nommée. Il s'agit de Pauline De Jong, qui travaille à l'organisme depuis son apparition. Madame De Jong, qui conserve également son titre de directrice générale, est désormais responsable de la réglementation des opérations pétrolières et gazières dans la majeure partie continentale, c'est-à-dire sur les terres des TNO. Cette réglementation vise à assurer la sécurité humaine, la protection de l'environnement et la conservation des ressources pétrolières et gazières. Mais cette nouvelle imposition de transparence pour les compagnies extractrices ne représente qu'un début aux yeux de certains. C'est le cas du député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, un militant environnementaliste de longue date qui était auparavant consultant en surveillance environnementale et qui a un intérêt marqué pour la question des industries extractives du Nord.
Before everything was kept secret, things are public unless there's a good reason to keep them secret. But I'd like to see this in practice, and I would like to see regulations or the guidance that's been developed around this.
Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, indique ici que certains changements de la loi sont appréciables. On a tranquillement commencé à bouger les choses vers la bonne direction, vers des décisions plus transparentes. Pour la façon dont ce sera appliqué, le diable sera dans les détails. Pour la suite des choses, aux yeux du député, la gestion de l'exploitation pétrolière et gazière au territoire devrait être retirée des mains du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, puisque ce même ministère en fait également la promotion. Ce ministère est en fait chargé de gérer les droits d'exploitation pétrolière et gazière dans la partie continentale des TNO. On peut lire sur le site web du ministère en question, dans la section pétrole et gaz, qu'il s'efforce de promouvoir l'indépendance économique par une gestion et un développement responsable des ressources pétrolières et gazières des TNO, afin de créer une économie prospère, diversifiée et durable au profit de tous les TNOIs. Aux yeux de Kevin O'Reilly, il s'agit là d'un conflit d'intérêts.
And I think that the oil and gas rights should be administered by Department of Lands. They should not be administered by IPI because they're still trying to promote oil and gas development, and they have an inherent conflict of interest whenever you're trying to promote something and regulate it at the same time. That's not a good thing to do.
Comme l'explique Kevin O'Reilly, ce dernier croit que les droits entourant l'extraction d'huile et de gaz devraient être administrés par le ministère des Terres ou un autre ministère, et non pas par le ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, puisqu'il essaie encore de promouvoir le développement du pétrole et du gaz. Promouvoir une chose et essayer de la réguler en même temps, dit-il, n'est pas une bonne chose à faire. Le plafond de responsabilité absolue imposé aux compagnies d'extraction devrait aussi être modifié selon lui, comme l'a d'ailleurs fait le gouvernement fédéral pour l'exploitation faite au large.
The feds have changed the offshore absolute liability cap to I think it's $1 billion now. But GNWT has not changed this cap on the lands that we control now under devolution. I've raised this in the last assembly. I've raised it again with the current minister twice. The minister could change that absolute liability cap tomorrow, but it's set in a regulation. But she won't do it, and I don't understand what the problem is.
Le gouvernement fédéral a modifié ce plafond, explique Kevin O'Reilly, pour l'exploitation effectuée au large des terres des territoires du Nord-Ouest. C'est donc un plafond qui atteint désormais environ $1 milliard. Le GTNO ne l'a pas encore changé sur les terres que nous contrôlons, poursuit-il. La ministre pourrait le faire sur le champ, comme le prévoit le règlement, mais elle ne l'a pas encore fait. Monsieur O'Reilly dit ne pas comprendre pourquoi. Puisqu'il ne s'agit pas, et affirme qu'il ne s'agit pas là d'un développement énergétique responsable. Tout ceci étant dit, le militant environnemental demeure persuadé que les enjeux liés à l'exploitation pétrolière et gazière deviendront bientôt choses du passé.
But guess what? There is no interest in oil and gas exploration right now because prices are so low. It's much easier to find oil and gas elsewhere, and the world is converting to other energy sources. So the likelihood of much oil and gas exploration happening here in, you know, the short and medium and maybe even the long term is there's just no interest whatsoever. I don't think it's ever probably going to come back, and probably nor should it ever come back. If we continue to rely on oil and gas, it's not good for the planet.
Kevin O'Reilly souligne ici qu'il n'y a aucun intérêt en exploration en ce moment au territoire du Nord-Ouest. Les prix sont si bas, il serait beaucoup plus avantageux de trouver du pétrole et du gaz ailleurs dans le monde. D'autant plus que les gens transigent vers d'autres formes d'énergie. Il n'y aurait donc aucun intérêt en ce moment dans ce genre d'exploitation. Monsieur O'Reilly affirme qu'il ne pense pas que ça va revenir ni que ça devrait revenir, et ce, pour le bien de la planète. La semaine prochaine, Territoire d'Info vous présente le point de vue de l'analyste énergétique Doug Matthews, qui prône, pour sa part, l'exploitation pétrolière et gazière au territoire du Nord-Ouest. Après avoir connu un creux historique d'achalandage durant la crise pandémique, le Carrefour Carrière de Yellowknife répond depuis peu à une demande croissante pour ses services d'assistance aux études et à la formation. Ce phénomène récent pourrait, selon le gestionnaire du centre, Gordon Ross, avoir été accéléré par la crise pandémique. Le Carrefour Carrière a enregistré en mai dernier, durant le confinement, une baisse de 70 % de la clientèle par rapport à l'année 2019. À son retour graduel, à partir du mois de juin, une proportion importante de la clientèle s'est mise à réclamer des services jusqu'alors beaucoup moins sollicités.
I hadn't noticed that last year, but this is something that has come to the foreground this year particularly. I can think of 10 clients off the top of my head that have started to, you know, continue work because it's gainful employment. It's one of the number one employers in the territory, and there's many benefits to it. But some people are starting to plan a little forward and maybe start to look at a career transition.
Gordon Ross, gestionnaire du Carrefour Carrière de DTNO, explique ici qu'il ne l'avait pas observé l'an dernier, mais que tout dernièrement, au moins 10 clients qui étaient des employés de mine du territoire et qui continuent tout de même à y travailler s'intéressaient à une transition de carrière. En juillet, 12,6% des clients ont réclamé des services d'aide aux études, parmi lesquels 22% cherchaient également un emploi. Il s'agit d'une évolution considérable par rapport aux statistiques de l'an dernier. En juillet 2019, 5,7% des clients cherchaient des services d'aide à l'éducation, parmi lesquels 87% se cherchaient un emploi. Des chiffres qui seraient en grande partie attribuables, selon M. Ross, au déclin prévu de certains secteurs d'emploi, dont celui de l'industrie minière au territoire du Nord-Ouest.
People are also accessing us more and more for application assistance, particularly around scholarships and education. So I think there's which somewhat indicates to us that with a soft labor market, and soft opportunities for jobs that more and more people are considering continuing their education or upskilling.
Gordon Ross affirme ici que ces chiffres font croire, en quelque sorte, qu'avec un marché du travail limité et des occasions d'emploi limitées, de plus en plus de gens considèrent poursuivre leur éducation ou mettre leurs aptitudes à jour. C'est une situation qui ne date pas d'hier, mais à ce qu'en croit le gestionnaire, la crise pandémique pourrait avoir contribué à éclaircir cette situation aux yeux des travailleurs.
COVID has had a significant unprecedented impact on the economy, but it's highlighted the real strengths and weaknesses in our economy and in our labor market. And I think people are starting to now, I would like to think some people are starting to now see the time is an opportunity to better position themselves for the future.
Gordon Ross affirme que COVID-19 a eu un impact sans précédent sur notre économie, mais qu'il met également en lumière les vraies forces et les vraies faiblesses du marché du travail. Selon lui, cette crise pourrait avoir accéléré la compréhension chez les travailleurs qu'ils ont aujourd'hui l'occasion de commencer à évoluer vers d'autres domaines. Le Carrefour Carrière accueille ainsi de plus en plus de travailleurs des mines, par exemple, qui considèrent des changements de carrière.
I've just been laid off from my job. Many businesses are closing due to COVID, and there is an opportunity to access some emergency benefit funds to help bridge my time over this downturn. Therefore, I will ensure that I look after my family, access any available funds to help get through this time.
Plusieurs travailleurs des TNO qui ont été mis à pied ou qui ont perdu leur emploi durant le confinement ont pu toucher l'aide au revenu fédéral, comme le souligne Gordon Ross. Plusieurs entreprises sont fermées également, avec les risques alors associés à un retour précipité à l'emploi. Un grand nombre de travailleurs ont pris une pause tout simplement. Plutôt que de chercher un revenu d'appoint, ils ont préféré voir à s'occuper de leur famille. C'est du moins une hypothèse qui est avancée par le gestionnaire, qui ajoute que ce temps de pause représente, selon lui, aurait représenté une bonne occasion de repenser son avenir pour plusieurs travailleurs dans un marché de l'emploi en pleine mutation.
Hopefully, people are starting to see the kind of the evolution of the labor market, particularly in the Northwest Territories here. So with certainly the downturning of mining opportunities.
Monsieur Ross dit espérer que les gens commencent à constater l'évolution du secteur de l'emploi et souligne que le Carrefour Carrière continue à accroître ses capacités afin d'aider les gens à mieux saisir cette occasion de mettre leurs aptitudes à jour et peut-être d'améliorer leur niveau de scolarité. Le Carrefour Carrière a aussi planifié ses ressources en conséquence. L'équipe a développé ses capacités en matière de formation et en modèle de carrière. L'un des employés sera bientôt certifié comme coach de carrière. Il s'agit d'un service qui est offert pour la toute première fois au Carrefour Carrière des TNO. La santé publique s'inquiète d'une augmentation des infractions liées essentiellement aux règles d'auto-isolement au territoire du Nord-Ouest. Dans le cadre des arrêtés de santé publique, Baptiste Foisier est avec nous pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Le groupe de travail sur l'application et le respect des arrêtés de santé publique a donc sévi dernièrement.
Tout à fait. Depuis la dernière semaine, 4 nouveaux constats d'infraction ont été émis au territoire du Nord-Ouest en vertu des arrêtés de santé publique, ce qui porte à 12 le total de constats émis. Tous ces constats-là, on dit depuis le début de la pandémie, mais en fait, c'est vraiment depuis le début de l'été qu'on a commencé à en émettre. Et là, 4 en une semaine, c'est probablement le plus qu'on a vu. La santé publique, et là-dessus, il y avait 3 cas qui étaient des gens qui ne respectaient pas leur plan d'auto-isolement. Il y avait également une personne là, qui a été interpellée parce qu'elle s'était rendue dans un lieu alors que la santé publique lui avait à maintes reprises signifié de ne pas le faire. Les gens qui reçoivent ces constats d'infraction-là s'exposent à des grosses amendes. Là, on parle de plus de 1 700 $ d'amende à chaque fois. Et tout cela, avec ces statistiques-là, la santé publique a également émis un avis à la population. La santé publique qui se dit, et je les cite, là, troublée ou estomaquée de l'augmentation récente des infractions à l'auto-isolement. On demande à la population de bien vouloir respecter ces plans d'auto-isolement qui sont obligatoires là, pour tous les gens qui rentrent au territoire du Nord-Ouest, que ce soit des résidents ou des non-résidents. Et on dit, quand vous rentrez au territoire du Nord-Ouest, il faut donc s'auto-isoler pendant 14 jours. Cela implique qu'on ne sort pas de son domicile, hormis pour de courtes marches où on ne rencontrerait pas personne. On ne peut pas accueillir de gens non plus dans son domicile, et même si on respecte les 2 mètres qu'on nous demande de respecter en tout temps. Et on dit qu'il faut aussi se faire livrer là, ses effets personnels, par exemple son épicerie à la maison. Et on le rappelle parce qu'il semble qu'il y ait une recrudescence de gens qui ne respectent pas ces règles. On dit que si les gens ne se mettent à ne pas faire l'auto-isolement, c'est là qu'on pourrait voir une éventuelle éclosion de COVID-19. La santé publique tient à rappeler que le risque est bien réel et que bon, ce n'est pas pour faire peur aux gens qu'on leur demande de rester à la maison. C'est vraiment par mesure pour prévenir la propagation de la COVID-19. On rappelle qu'il y a toujours seulement 5 cas officiellement au territoire du Nord-Ouest depuis la pandémie.
Donc, c'est une hausse marquée des infractions quand même depuis le début de l'été. Mais justement, Baptiste, c'est l'été. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand nombre de personnes qui arrivent de l'extérieur et qui doivent se soumettre à ces règles d'auto-isolement?
Oui, Thomas, c'est une bonne hypothèse parce que c'est effectivement les chiffres qui nous sont communiqués. Dans la dernière semaine pour lesquelles on a des statistiques, c'est la semaine du 26 juillet au 1er août, il y a eu 892 plans d'auto-isolement de soumis. Alors, il faut comprendre que ça veut dire qu'il y a 892 personnes qui sont entrées au territoire du Nord-Ouest, ou bien par avion ou en l'un des postes frontaliers, que ce soit des résidents ou des non-résidents, des travailleurs essentiels ou encore des gens qui sont simplement en déplacement, qui se rendent au Nunavut, par exemple. Et donc, il y a eu pendant cette semaine-là près de 900 plans d'auto-isolement qui ont été soumis. C'est beaucoup plus là, que si on se rapporte au mois de mai. Là, au mois de mai, là, dans une grosse semaine, il y avait tout au plus 400 plans d'auto-isolement, peut-être 450. Alors, on a plus du double maintenant. On constate d'ailleurs que chez les non-résidents, là, qui sont quand même une minorité là, parmi ces gens-là, il y en a quand même beaucoup plus. Là. Au mois de mai, il y avait rarement plus d'une trentaine de non-résidents qui pénétraient le territoire. La semaine dernière, ils ont été 152, Thomas. Et c'est quand même significatif. Alors, j'ai questionné la santé publique pour savoir qui sont ces gens qui entrent au territoire. On me dit que essentiellement, la majorité sont en fait des travailleurs. Il y a, bon, évidemment, des travailleurs essentiels qui doivent entrer. Il y a des travailleurs de la construction qui viennent travailler dans le Nord. Il y a également aussi un roulement, là, notamment il y a plusieurs familles militaires, semble-t-il, qui arrivent au territoire du Nord-Ouest, du nouveau personnel scolaire qui vient s'établir au territoire du Nord-Ouest. Tous ces gens-là sont comptabilisés comme étant des non-résidents. Donc, ces mouvements-là qu'on constate à chaque année, ben, ils arrivent encore cet été, et c'est pour ça qu'on a plus de gens qui rentrent au territoire du Nord-Ouest, plus de gens qui doivent s'isoler, et plus de gens qui ne respectent pas cette règle d'isolement.
Parfait. Bien, Baptiste Foisy de l'émission Bonjour là, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous en prie, Thomas.
La Rainbow Coalition de Yellowknife et le NWT Creative Collective ont conjointement mis sur pied le premier camp d'été LGBTQ2S+, pour les jeunes. Ça se passe du 21 au 25 août. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Alors Cécile, vous avez eu l'occasion de parler de ce camp, le baptisé Community Camp, avec les organisatrices.
Oui, tout à fait. Donc ce Community Camp est proposé aux adolescents de 12 à 19 ans habitant la capitale des TNO et les collectivités environnantes. Donc j'ai discuté notamment avec Chelsea Thacker, qui est la directrice générale de la Rainbow Coalition, et elle nous explique en quoi ce camp est important.
The Rainbow Coalition of Yellowknife is the only LGBTQ2S youth serving organization in the entire territory. No, and not only do we handle working with LGBTQ2S youth, we also help adults and elders in our community. And so there's never been a camp like this before that's offering a safer space for LGBTQ2S youth. From that, between that and also wanting to provide more opportunities for youth to get out on the land and reconnect with maybe their culture and just get to know more about one another and find a and build a safer, supportive community. That's why we decided it was important to create this project.
Chelsea Tucker, directrice générale de la Rainbow Coalition, explique qu'il n'y a évidemment jamais eu un tel camp au territoire. On souhaite faire découvrir la nature aux jeunes ainsi que les terres ancestrales, mais il est également très important d'encourager les jeunes dans ce contexte à se retrouver entre eux et les encourager à construire une communauté saine et sécuritaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes comme activité durant cette semaine-là, Cécile?
Alors, ça va être un camp assez traditionnel avec du canot, de la randonnée, des chants autour du feu. C'est des activités vraiment similaires à un camp d'été dit traditionnel. Il va y avoir par exemple des promenades avec les aînés sur le territoire. Ils ont même prévu de construire des cabanes pour oiseaux, comme l'a confié Sydney Devasich, qui est elle la présidente de NWT Creative Collective. Les participants ils seront divisés en différents groupes, aléatoirement composés, soit par tranche d'âge, soit par affinité. Et il y aura donc ils seront chacun encadrés par un chef de bande. Et voilà, donc c'est, je rappelle quand même que toutes les inscriptions sont gratuites grâce aux commanditaires qui sont donc le Conseil des Arts des TNO et la Foster Family Coalition.
Et donc tous les jeunes s'identifiant comme étant LGBTQ2S+, sont admis au camp. On a quand même établi une priorité dans les inscriptions.
Ah oui, alors effectivement, comme c'est inscrit sur le site de la Rainbow Coalition, la priorité est donnée à celles et ceux qui s'identifient comme autochtones, bispirituels, polydésavantagés. Donc en anglais, ça donne multi-intersectional, indigenous, two-spirited. Et Chelsea Stacker m'a expliqué pourquoi il était important pour elle et pour les deux associations de donner la priorité à ces personnes-là.
It's really important for us to be able to connect with our Indigenous and Black and people of color youth who we have in our community because they are statistically at a bigger disadvantage and are less supported in both their schools and their communities. And they face a lot of more of discrimination and just a lot more hardships. So we want to prioritize those youth because it's important that they feel seen and they feel prioritized.
Chelsea Tucker qui explique qu'il est primordial pour les organisateurs d'être proche des personnes autochtones, noires et de toute couleur, de toute identification au sein de la communauté, puisqu'elles sont statistiquement désavantagées, qu'elles font souvent face à davantage de discrimination. Il est donc important de les faire se sentir prioritaires. Or, on écarte évidemment personne de ce camp, du camp Community Camp. Donc, les inscriptions sont fermées à l'heure actuelle. Le camp affiche complet pour sa première édition. Du côté des organisatrices, on s'imagine déjà répéter la formule pour les années à venir. Cécile-Antoine Maisonnade, journaliste pour le journal L'Aquilon. Merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'était vos nouvelles territoires d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoires d'info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.